Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et toujours mon camarade Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Ce soir, nous avons aussi le plaisir d'accueillir André Losgood-Pietri. Bonsoir André.
Bonsoir François.
Président de la Joint European Disruptive Initiative, le fameux JEDI. J'imagine que tu as plein de choses à nous dire concernant ce rapport dédié à l'IA. On pourra peut-être évoquer aussi l'IA Act. C'est vrai que l'actualité s'entrechoque, dédié à l'IA en ce moment. Et puis on accueille pour la première fois sur le plateau de Tech & Co pour débriefer tout cela, Théo Leblanc. Salut Théo.
Bonsoir François.
Bienvenue.
Merci.
Théo a 17 ans, enfin 17 ans et demi. C'est ça, hein? Bientôt 18, ce sera en octobre prochain. Je crois que c'est le plus jeune débriefeur qu'on ait jamais eu dans Tech & Co. Il nous donne une claque à tous, là, en ce moment. Théo, tu es expert réseaux sociaux, IA, t'as ta chaîne YouTube, tu cartonnes, en fait, t'as énormément d'audience sur ces sujets parce que, en fait, tu t'es accaparé ces sujets de l'IA, c'est ça? Et tu en parles, tu essaies d'être très pédagogique. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais?
Ça. Alors aujourd'hui, je suis principalement sur LinkedIn et avec une newsletter. Ouais. YouTube, c'est encore en lancement. Aujourd'hui, c'est un peu en stand-by. Mais ce que je cherche à faire, c'est vulgariser, pas uniquement comment bien servir des IA, bien sûr, forcément un peu comment est-ce qu'on s'en sert bien, mais surtout comment fonctionnent les modèles derrière. Vraiment faire un travail où sur le long terme, que les personnes qui me suivent puissent comprendre au-delà des apparences comment fonctionnent les technologies derrière, sur quoi se basent les tendances, afin qu'elles soient capables de s'adapter sur du long terme et pas uniquement en maîtrisant le dernier mot de ChatGPT à la mode. Ce que je trouve pas très utile et finalement pas très pertinent sur du long terme. On va faire de l'éducation, mais uniquement des astuces.
D'accord. Donc, par exemple, sur Midjourney, tu vas nous donner des petits conseils, des choses comme
justement,
ça.
Je vais plutôt expliquer, OK, comment est-ce que fait Midjourney pour générer des images à partir de zéro, seulement à partir d'un texte. Quelle est la technologie derrière? Et mon rôle, c'est de le vulgariser pour que la boulangère puisse le comprendre.
Parfait. Imagine une boulangère qui sert de Midjourney pour faire des pains magnifiques.
En plus, on vient de nous dire à l'instant qu'il fallait que tous les métiers s'intéressent à l'IA.
Voilà, exactement. André et Théo, justement, vous avez peut-être écouté nos invités tout à l'heure, Philippe Aguillon et Anne Bouvreau, concernant ce rapport dédié à l'IA qui a été commandé par le président Emmanuel Macron. Est-ce que on part dans la bonne direction, selon vous, avec ce plan? Peut-être commencer avec André, puis après Théo nous dira ce qu'il en pense.
Alors je crois que ce que vient de dire Théo, et c'est probablement la chose positive que je retiens de ce rapport, c'est cette volonté d'expliquer et de faire en sorte que ça soit vraiment un sujet qui soit pas juste un sujet limité à une petite sphère, soit des start-up, soit des technophiles ou des scientifiques, mais que c'est un vrai changement de société, une vraie révolution industrielle. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Après, je vais être très direct, je pense qu'il faut se dire les choses, et parmi la quinzaine de membres de la commission, la plupart sont des amis, notamment Philippe et Anne, mais j'ai envie de dire un rapport de plus pour enfoncer des portes ouvertes. Le fait que ça soit une révolution comme l'électricité, Eric Schmidt ou plein d'autres le disent déjà depuis 6 mois. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a une commission pour la sécurité sur l'IA qui a été montée en 2018. Donc on a juste 6 ans de retard. Et enfin,
on avait le rapport Villani, nous.
Et ben voilà. 2018. Et c'est l'autre chose, c'est qu'il y a une mention du rapport Villani, et on a un peu l'impression qu'on est le pays qui adore faire des rapports. On ne parle pas du tout du retour d'expérience, comme on dirait dans les armées. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai envie de dire, où est l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait, les 3 milliards du rapport Villani? J'entends le président de la République qui secoue, et à juste titre, son administration pour être plus agile, etc. Eh bien, commençons déjà par l'IA pour passer à l'action. On sait ce qu'il faut faire. Et enfin, il y a quelques vraiment énormes impasses dans ce rapport que je pense qu'il faut pointer. J'ai beaucoup entendu Anne parler de la puissance de calcul.
Anne Bouvreau.
Et de la Anne Bouvreau. On va probablement, avec l'électrification en France, les véhicules électriques et tout ça, déjà avoir probablement une impasse d'électricité à partir de 2027-2028. Je ne sais pas si ce chiffre est connu, mais on estime qu'aux États-Unis, il va falloir 2 fois plus d'électricité d'ici 2035, rien qu'à cause
pour alimenter en fait tous ces modèles
d'IA. Puissance de calcul. Donc aujourd'hui, il est impossible d'imaginer que cette courbe aille, et juste de penser on va attirer. Moi je pense au contraire qu'il va y avoir une tendance inverse, c'est-à-dire on va voir de plus en plus de grandes agglomérations refuser d'avoir des centres d'entraînement de l'IA chez eux. Donc ce genre d'impasse me semble. Et l'autre chose, c'est une guerre des talents. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on sait que chez ChatGPT, la moyenne des salaires c'est 1 million, enfin c'est 950 000 dollars par personne, moyenne d'âge entre 25 et 30 ans. La concurrence, elle est sur les talents. Alors, je sais que beaucoup d'argent va être mis là-dessus, mais voilà. Donc, première chose, bonne chose sur la pédagogie. la volonté de faire, de changer de méthode. Le problème, c'est que ce qui a été repris par les médias, c'est essentiellement les 5 x 5 milliards. Désolé, mais on ne les a pas. Je veux dire, donc il faut vraiment changer de méthode et être beaucoup plus efficace avec l'argent investi. Donc c'est quoi les sujets où on veut être en tête? Est-ce que véritablement on met en œuvre le fait de se concentrer sur quelques talents? Je rappelle que le rapport Villani, il voulait se concentrer au début sur attirer les meilleurs talents. Finalement, on a distribué des centaines de chaires d'IA un petit peu partout. On a fait 4 centres, je crois, 3 IA. On sait faire ce qu'on, ou là où on est les champions du monde en France.
C'est chercher à Polytechnique.
C'est du saupoudrage. On fait du saupoudrage généralisé. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça dépend que de nous. Mais là, j'ai envie de dire un rapport de plus qui fait que repousser le tas de sable.
Théo, quel est ton point de vue justement sur ce rapport? Parce que je sais que tu l'as étudié. Qu'est-ce que tu en penses?
Le problème, d'ailleurs, tu t'en as parlé sur l'électricité, c'est qu'il y a plusieurs points sur les chiffres où concrètement ce ne sera pas mis en place. Parce que par exemple, tu parles pour la problématique de l'énergie. Il y a une estimation qui est faite dans ce rapport, c'est que les investissements en IA et l'IA représentera en 2027 l'équivalent en production énergétique d'un pays comme l'Angleterre ou l'Argentine. Ce qui est démesuré. Et ce qu'aujourd'hui on n'est pas forcément capable d'assumer. Il n'y a pas les infrastructures énergétiques qui suivent. Il faudrait, oui, potentiellement, on parle.
Il faudrait ouvrir quelques centrales nucléaires. Quoi,
ou alors avoir ce point dont on parle
et
beaucoup.
Et on n'en prend pas le chemin, malheureusement.
Non, malheureusement. Et puis, le problème, c'est qu'il faut 20 ans, 30 ans pour arriver à développer ces technologies nucléaires.
Mais à côté de ça, en fait, dans ce rapport, oui, les chiffres sont bien, sont grandiloquents, permettent de faire des belles annonces. Je pense que ce n'est pas le plus important, ce sur quoi se concentrer. Il faut plutôt se concentrer sur, OK, quels sont les points les plus mis en avant. On en a parlé, c'est le fait de faire de l'éducation auprès des grandes populations, de tenter de faire, finalement, montrer que l'IA, ça s'adresse à tout le monde, montrer à tout le monde comment s'en servir, le démystifier, que ça ne soit pas plus, enfin, que ça ne soit plus une boîte noire, un mot un peu bizarre dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais que n'importe qui puisse comprendre, se l'approprier et soit capable de jouer avec dans les prochaines années.
Et c'est la première recommandation d'ailleurs de ce rapport. Là, c'est un peu dur, André, quand même.
C'est celle que j'ai mis en avant comme étant vraiment positive, c'est-à-dire c'est la lucidité, la sensibilisation. Ouais. Mais
C'est ce que tu fais d'ailleurs, Théo.
Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, malheureusement, ChatGPT le fait pour nous. Je rappelle que ChatGPT, c'est le taux d'adoption dans le grand public. C'est ce qui est véritablement mis le sujet de l'IA, pas juste un sujet de spécialiste, mais un sujet de grand public, vraiment de grand public. Donc ça, c'est très positif. Donc il faut aller plus loin.
Mais l'exemple que donnait Anne était très intéressant. Mmh. Par exemple, dès le plus jeune âge, expliquer aux enfants que cette photo, quand on voit le pape avec peut-être une grosse doudoune, c'est pas possible. C'est forcément.
J'ai envie de mettre les gens devant leurs contradictions. Je vous donne un exemple très concret. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un programme de recherche à quelques millions d'euros, donc je dis bien millions et pas milliards d'euros, pour la détection en temps réel de ces fameux deepfakes, c'est-à-dire les vidéos fausses générées par l'intelligence artificielle. Pendant longtemps, ça marchait pas très bien. Aujourd'hui, les grands modèles de langage, la traduction automatique permet de rendre ça. Et c'est un danger mortel pour nos démocraties. Tout ce qui a aujourd'hui une réputation, une banque, un homme politique, un homme ou une femme politique.
Peut-être potentiellement visé.
Et c'est demain. C'est les élections européennes en juin, c'est les élections américaines. Eh bien, tenez-vous bien, pour mettre quelques millions d'euros dans ce genre de projet de recherche, vraiment de rupture, là, le gouvernement est aux abonnés absents. Par contre, pour distribuer largement dans les centres de recherche, de faire des annonces, je suis un petit peu dur, mais je pense que véritablement, on n'est plus au temps des recommandations. On sait ce qu'il faut faire, mais on est au temps de l'action. Et aujourd'hui, malheureusement, les grandes entreprises américaines de la tech sont en train de capitaliser. On a beaucoup parlé des données, je crois aussi, avec Anne Beauvreau et Philippe Aillon. Mais ils sont en train de capitaliser sur la masse énorme de données. Et il y a quelques projets de recherche simples. Est-ce qu'on peut faire de l'IA qui consommerait 1 million de fois moins d'énergie qu'aujourd'hui? Ça, c'est un projet où la France et l'Europe peuvent repartir en tête. Est-ce qu'on peut faire de l'IA qui n'utilise pas...
C'est un peu le cas de Mistral, non? Qui, je crois, consomme beaucoup moins de puissance de calcul que ChatGPT à pertinence d'IA égale. Non, enfin, je sais pas, j'avais cru lire ça.
Ils utilisent un peu moins de tokens et tout ça.
Ils utilisent un peu moins de données.
C'est une petite optimisation. C'est pas quelque chose de révolutionnaire.
C'est pas révolutionnaire.
C'est
toujours ça de prix, cela dit, si c'est le cas.
C'est toujours ça de prix. Et l'autre grande chose,
c'est... On en parle, c'est que là-dessus, mais surtout que là-dessus, il y a un vrai intérêt pour les entreprises à réduire les coûts, parce que c'est aujourd'hui leur coût principal, c'est le coût d'entraînement, c'est l'électricité qui coûte extrêmement cher, et il y a un intérêt direct. Je prends l'exemple d'une entreprise qui a fait beaucoup de bruit récemment, Grok, pas d'Elon Musk, mais GROQ, oui, qui a sorti des nouvelles puces spécialisées dans l'inférence, donc dans l'utilisation des modèles de langage, et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher, qui consomme beaucoup moins.
Et qui est beaucoup plus rapide aussi. C'est incroyable la rapidité, la latence qu'il y a avec Grok, c'est fou.
Et là-dessus, sur l'électricité, je pense que c'est vers ce genre de technologie, c'est aussi ce qui est évoqué dans le rapport, qu'on va se diriger, où ça ouvre de nouvelles idées de start-up.
Donc ça vient contredire ce que disait André, c'est-à-dire que finalement.
C'est que ça va complètement avec.
Mais je termine, André. Oui, deux secondes, excuse-moi. Parce que tu disais qu'avec cette montée en puissance de calcul, on va consommer beaucoup plus d'électricité. Mais peut-être que finalement, on va arriver à être moins consommateur d'énergie pour avoir le même résultat finalement avec les optimisations. L'exemple, c'est Grok, finalement.
Oui. C'est un exemple, mais c'est pareil partout. C'est un peu l'approche. Est-ce qu'on décide d'investir dans la technologie en pariant sur le fait qu'on sera capable de la développer assez pour qu'au final on consomme moins de ressources et que ce soit beaucoup plus efficient, ou alors on consomme uniquement les ressources qu'on a à notre disposition? Et là, c'est plus une question philosophique que vraiment on n'est pas capable de voir dans l'avenir. Et les différents experts se contredisent tous parce qu'on ne peut pas vraiment savoir aujourd'hui, dans 20 ans, dans 30 ans, quelles seront réellement les innovations technologiques, quelles seront les révolutions qu'on n'est pas capable d'imaginer aujourd'hui. Donc, c'est plus un pari idéologique.
Fred,
moi plusieurs choses. Bon, alors déjà, il faut.
Est-ce que tu es aussi dur que qu'André sur le?
Non, je suis un peu moins dur parce qu'il y a quand même.
Moi,
je suis d'accord sur le côté. Bon, la situation est alarmante aujourd'hui. Hein, on voit les entreprises et tout ça. Moi, je trouve que les seules entreprises qui bougent, c'est les entreprises qui vont à l'international. C'est les seules qui voient ce qui se passe à l'international et du coup, elles bougent. Donc, malheureusement, en France, on a beaucoup d'un tissu de PME, de TI qui ont quelques connexions à l'international et qui du coup ne se rendent pas compte de cette révolution. Et là, je pense qu'il y a vraiment. Alors, je ne sais pas si une réunion comme avait été faite à l'Élysée à l'époque pour dire il nous faut 25 licornes, Emmanuel Macron avait ramené tout le monde, ramené tout le monde pour dire au grand patron, il faut y aller. Je pense que là, il y a une vraie. À un moment, Philippe Aguillon disait oui, s'il y a une réussite qui doit être jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est l'IA. Et je pense que là, il y a vraiment un très, très gros effort d'investissement, de mobilisation, mais vraiment mobilisation générale, quoi. Au niveau des administrations, mais c'est sans délai. C'est de dire, mais ce soir, c'est de réunir tous les patrons des grandes administrations et de leur dire qu'est-ce qu'on vous fait en IA. Et on lance. Et on lance parce que, déjà, je suis certain que dans la plupart, ils utilisent déjà plus ou moins ChatGPT un peu masqué. Donc, allez-y. Ça c'est la première chose. L'argent, arrêtons avec les tabous. Quand j'entendais Mistral qui reçoit de l'argent de Microsoft, eh bien, qui reçoit de l'argent de Microsoft, quand SoftBank va peut-être venir mettre de l'argent, eh bien, qui reçoit de l'argent de SoftBank, il faut faire venir cet argent. On réussira pas sinon. Alors après, on nous dit réfléchir l'épargne des Français. Alors, c'est ce que dit le rapport. Avant qu'on fasse bouger ça, et avant que les Français se disent, moi, mon petit appartement, là, ça me rapporte mon machin, alors que là, je vais investir dans je ne sais trop quoi. Donc, il y a toute cette éducation à faire autour des investissements. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder les deux, trois priorités, la formation. Moi, je pense que l'administration doit tout de suite passer, plus poser de questions. Ce soir, réunion, tous les patrons, les directeurs des administrations, on lance à fond. Accepter, mais alors essayer d'alléger au maximum pour attirer, toutes les règles réglementaires pour attirer des fonds étrangers. Il faut de l'argent.
C'est ce que disait André aujourd'hui. Un programmeur en développeur chez OpenAI, c'est $1 million, quoi. Comment on fait aussi pour les payer, ces gens-là?
On avait Cédric O qui était venu ici quand il y a eu ce plan à 1,5 milliard, et on pose la question à Cédric O, j'ai dit, mais 1,5 milliard, il faut les mettre où? Il a dit,
Dans les salaires.
Et c'est ça. Et en plus, il faut repérer. Alors, c'est comme au foot, il faut repérer les 4-5 Mbappé du coin. Et c'est eux qui vont entraîner, les Arthur Mensch. Ils sont pas nombreux. Mais justement, si on les repère bien et qu'on les calibre bien, on peut y aller. Donc, moi, je suis, optimiste. Je suis plutôt pessimiste, justement, par rapport à la situation. Mais je me dis, voilà, c'est vraiment l'action. Le rapport est super bien. En plus, on les connaît tous. Là, il y a Nequin, les Luc Julia, les Cédrico. Enfin, tous ceux qui sont dans ce. Et on voit un peu quelles préconisations. En plus, il y avait des juristes qui étaient dedans. Donc, on voit que tout ça, il y a un vrai plus. Ils connaissent parfaitement. Ils savent ce qu'il y a à faire. Maintenant, c'est faire. Comment on fait pour, à la baïonnette, là, aller piquer la fesse de.
C'est moi ce qui me semble surprenant, c'est que tout le monde répète à corps et à cri que ce qui compte, c'est pas les grands concepts, mais c'est la mise en œuvre et la rapidité de mise en œuvre.
Et voilà.
Et à nouveau, on est au niveau de. Et j'insiste, il y a trois énormes impasses dans ce rapport. L'énergie, on en a assez parlé. Deux, les semi-conducteurs. aujourd'hui, l'argent de Mistral passe dans les talents et dans les GPU de Nvidia. Et tu parlais de Grok, mais bon, Grok, c'est une option. Il développe ses fameux Language Processing Units, LPU.
Mais il n'a pas le temps de développer tout ça.
Oui, c'est ça le problème.
Non, mais le problème, c'est qu'il faut commencer. C'est-à-dire que aujourd'hui, Nvidia n'est pas éternel. Quand en 2018, Microsoft met un commit entre.
C'est-à-dire que pour toi, il faudrait une réflexion pour fabriquer nous-mêmes nos propres puces,
Mais aujourd'hui, Nvidia, c'est des puces GPU. Théo doit savoir ça beaucoup mieux que moi, qui sont basées sur quelque chose qui était fait notamment pour l'optimisation du jeu vidéo, c'est-à-dire le traitement des grandes images et des vidéos. Donc, on a utilisé ça pour faire maintenant du calcul matriciel, et donc c'est le mieux adapté au modèle de langage actuel. Mais c'est pas du tout la manière, par exemple, dont nous-mêmes, cognitivement, on travaille, dont nos neurones travaillent entre l'accès à la mémoire.
Tu veux dire par là qu'on pourrait avoir des puces encore plus optimisées?
Il y a toute une branche, c'est le concept de Grok d'ailleurs.
Bah, c'est en fait justement qu'il faut comprendre les GPU comment ça fonctionne. C'est qu'à la base, ce qui est déjà en place depuis longtemps, c'est qu'en fait, ça fait plein d'actions en simultané et que ça reproduit énormément d'actions en même temps. D'ailleurs, le cerveau fonctionne pas comme ça, il en fait une par une. Et entre autres, pourquoi est-ce que les puces de Grok fonctionnent beaucoup mieux? C'est qu'elles font les actions une par une.
Théo, tu as des actions chez Grok?
Non, mais parce que récemment, ce qui est sorti, c'est l'exemple parfait, mais il y en aura plein qui vont venir dans l'image, dans la vidéo, et il y a plein de startups qu'on ne connaît pas qui avancent là-dedans. Mais c'est l'exemple parfait. Les GPU sont aujourd'hui ce qu'on produit le plus, c'est ce dont on parle le plus parce que c'est déjà le cas. On s'est rendu compte que, ok, on a ça, ça fonctionne, et vu qu'on veut se développer très vite, on prend ce qui fonctionne parce qu'il y en a beaucoup, et qu'en plus, ça fait parler, il y a des grosses valorisations, c'est facile à mettre en œuvre. On n'a pas besoin de repartir de zéro avec des startups, mais clairement, c'est absolument pas l'avenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que même Nvidia travaille très probablement en interne sur des puces du même style que Grok, sur le texte, mais aussi sur l'image, sur l'entraînement, etc. Mais que l'avenir ne passera pas dans les GPU. Aujourd'hui, on parle énormément de GPU parce que c'est ce qui est utilisé, mais c'est utilisé parce qu'on n'a pas d'autre solution. C'est utilisé comme solution par défaut.
Et puis, faut voir aussi les entreprises aujourd'hui, elles commencent à choisir un type d'IA avec un type de processeur. Mm-hmm. Il y a les processeurs de Google qui sont très bien pour certaines IA qui font tourner du Mistral, qui font tourner de l'OpenAI, mais c'est. Alors, peut-être pas de l'OpenAI, mais ils font tourner en tout cas du Gemini sur de la puce développée par Google, et Google va avoir aussi les siennes. AWS, il y a la AWS Summit là dans quelques jours, on est partenaire, c'est le 4 avril je crois, ils vont parler justement de ce qu'ils sont en train de travailler sur les puces.
Le 3 avril,
on a nos amis de SoftBank qui veut investir dans Mistral, à qui appartient ARM ou ARM,
comment
le prononcer, eh bien ça c'est à SoftBank. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en
place. Je suis sûr que le président de la République écoute Tech & Co et François Sorel, et s'il nous écoute,
on espère.
Il y a deux choses tellement évidentes. Juste avant que tu m'interrompes, François, sur l'énergie. Oui, ça, les arbres ne vont pas augmenter au ciel, c'est juste pas possible. Donc il va falloir trouver une solution. On le sait. Qu'attend-on pour mettre 500 millions, 1 milliard dans un projet de recherche précis qui est développez-moi en 6 mois, en 12 mois, en 18 mois des algorithmes qui permettent de consommer des ordres de grandeur de moins. On a réussi à faire un vaccin en 8 mois.
Oui, c'est ça.
Tout le monde disait c'est pas possible, sauf que quand on concentre nos efforts. Donc ce qui manque dans ce rapport, c'est une priorisation. Et la deuxième chose, c'est les puces. C'est-à-dire aujourd'hui, Nvidia est à 98%, 99%. On a un monopole immense qui s'est créé.
Ils insistent beaucoup sur la partie puissance de calcul.
La puissance de calcul, c'est l'énergie et les puces. Aujourd'hui, l'énergie, on l'a pas. Mais oui, mais.
Ils en parlent. C'est d'ailleurs l'un des gros investissements qui est dans le rapport.
Nous, on est partenaire du GenSI, qui est cette grande puissance de calcul qui opère Jean Zé et tous les grands centres de calcul. Mais aujourd'hui, eux, leur principal aujourd'hui travail, c'est comment est-ce qu'on s'approvisionne en puces A100, H100 de Nvidia. On en est arrivé là, quoi. Et la troisième impasse qui me semble absolument colossale, c'est l'Europe. Alors on parle effectivement d'un fonds européen.
C'est ce qu'ils veulent faire dans le besoin de puissance de calcul. Ils veulent avoir du poids au niveau européen pour acheter des processeurs, pour acheter en masse des processeurs. Bon, après, il faut se lier avec les Allemands. Quand on voit déjà que les Italiens sont en train de sortir 1 milliard pour avancer eux-mêmes sur l'IA, je ne sais pas si l'unité européenne.
Ils veulent compenser. Quand on voit l'avance de la Chine et des Américains, ils ne vont pas avoir le choix s'ils veulent même ne serait-ce que rattraper le retard, sans parler des
bases. Ah, mais c'est nous avoir une unité européenne.
Non, mais avoir une coordination sur. On ne va pas pouvoir faire les grands projets. projet où on dit on veut faire quelque chose au niveau européen, mais enfin il faut bien voir que ça ne marche pas. Par contre, des projets très spécifiques, on veut un vaccin, on veut une puce qui remplace Nvidia dans 2 ans, ça c'est des choses tellement spécifiques qu'en plus on peut les mesurer.
Tout ce qui manque pour ça, c'est pas assez, c'est à part la partie formation et encore,
parce qu'on ça manque de concret, ça manque de projets très concrets. Et ils sont là, c'est-à-dire c'est à notre main. Je rappelle quand même, et là Philippe Aguillon avait tout à fait raison quand il parlait du potentiel économique, je rappelle quand même que les 1,5 milliard, que, alors c'est pas directement translaté, mais que Microsoft a mis depuis 2018 dans OpenAI, ben, en fait dans les 12 derniers mois, Microsoft a gagné 1 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc la création de valeur, elle est là, elle est immédiate. Et je rappelle que Microsoft vaut aujourd'hui plus que le CAC 40 réuni.
Théo, j'avais une petite question parce que durant ce rapport, on a évoqué l'impact de l'intelligence artificielle générative sur les métiers. Et en fait, Philippe et Anne ont pris par exemple comme les métiers de doubleurs, les interprètes, etc., qui vont être victimes de tout ça. À ton avis, est-ce qu'il y a d'autres métiers, d'autres secteurs qui vont être fortement impactés par l'IA générative ?
Tous vont être impactés à plus ou moins court terme. Ça va dépendre d'à quel point est-ce que justement les marchés s'adaptent rapidement. On parle. La première réflexe qu'on a, c'est de parler du marketing, mais c'est parce que le marketing adopte plus rapidement les nouvelles technologies. Tous les secteurs vont être impactés. On ne s'en rend pas forcément compte, mais par exemple, donnez-moi quelques exemples de secteurs et je trouverai des idées de quelques manières dont l'IA pourrait les aider, pourrait améliorer finalement la production, pourrait améliorer les différentes techniques. Donc aujourd'hui, tous les secteurs vont être impactés à plus ou moins long terme. Tous vont pas être impactés aussi vite les uns que les autres, mais tous vont être impactés. D'ailleurs, c'est ce qui est aussi expliqué dans ce rapport. D'accord. Moi, il y a un dernier point qui me gêne dans ce rapport, dont on parle pas, qui est le quatrième point bloquant pour moi. Parce qu'on parle beaucoup de l'éducation, on parle beaucoup du fait de former. C'est très bien d'ouvrir à comment fonctionne l'IA, d'ouvrir à ce que c'est. Mais il y a un gros point bloquant et que je vis au quotidien, puisque je suis encore étudiant à l'ESSEC actuellement. C'est que aujourd'hui, l'éducation n'est conçue sur un modèle où la valeur est donnée dans la connaissance. La valeur est donnée dans ce qu'on retient. Sauf qu'avec ces IA, le rapport à la connaissance doit être complètement changé.
C'est-à-dire la connaissance, en fait, elle est dans les puces, elle est dans l'IA générative, en fait, c'est ça?
Entre autres, mais les plus dans le modèle, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans les examens, on est obligé d'interdire les intelligences artificielles, alors que c'est censé être des examens qui simulent le monde réel, mais comme au final, ça biaise complètement le résultat et qu'on n'est plus capable aujourd'hui d'avoir une évaluation intéressante avec les IA, bah juste on fait, ok, on les bloque, on ferme les yeux, on met des œillères et on ne pense pas, en fait, c'est même plus utile parce que c'est plus un vrai examen, c'est plus comme dans la vie réelle. Dans la vie réelle, demain, par exemple, ok, je vais avoir un examen en école de commerce ou dans les études supérieures, je dois rédiger une lettre de motivation, je dois rédiger un CV, et on va me demander de ne pas le faire avec de l'IA. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait m'apprendre? Pourquoi est-ce qu'on devrait m'entraîner?
C'est l'inverse.
Pourquoi est-ce qu'on apprend des choses
en... Donc il faudrait ouvrir ChatGPT dans les écoles, c'est ça, ton avis?
Je pense qu'il faut complètement repenser. Par contre, en l'ouvrant, ça servirait plus à rien parce que les résultats seraient complètement biaisés, on valoriserait mal les élèves et le travail, mais il faut complètement, c'est un travail extrêmement dur à faire, extrêmement long et complet, mais c'est un travail qui est nécessaire de complètement repenser notre rapport à la connaissance, de complètement penser notre rapport à l'éducation, l'éducation dont la forme n'a pas changé depuis maintenant plus d'un siècle, avec toutes les innovations qu'on a eues, avec Internet, avec les communications, ça n'a pas changé.
Totalement d'accord. Ça fait 100 ans que l'école de Jules Ferry, c'est un prof, 30, 40, 50 élèves devant, alors qu'on sait tous, certains apprennent de manière visuelle, certains orales, certains en écrivant, etc. L'IA a cette capacité de potentiellement pouvoir faire de beaucoup plus de l'apprentissage personnalisé, ce qui veut dire qu'on va apprendre les MOOC, plus vite. Et l'autre chose, c'est ce que disait Théo.
Les MOOC, ça n'a pas marché.
Peut-être, mais à nouveau, il faut expérimenter, ce qui est sûr,
les MOOC, la manière dont c'est présenté aujourd'hui, parce que je le vis très clairement, j'ai à faire des MOOC, un MOOC chaque semestre, c'est simplement, ok, voici ce que vous devez faire, vous devez juste en valider un, rien n'est surveillé, et donc tout le monde, on envoie les questions à ChatGPT des examens finaux, ça nous prend 20 minutes, le MOOC est terminé.
Je me souviens qu'il y avait un autre rapport qui avait été remis au président sur les lumières du 21e siècle. Je crois que c'était Gérald Bronner qui présidait ce rapport, dont on n'a plus jamais rien entendu parler. Pas de Gérald Bronner, qui, je pense, doit être un peu dépité. Et je pense que c'est vraiment ton point, c'est de dire comment est-ce qu'on repense l'éducation et peut-être ce mythe de l'honnête homme et de l'honnête femme du siècle des Lumières, c'est de dire finalement on va plus apprendre à apprendre et quels sont aussi nos points forts. On est quand même dans une compétition de valeurs avec d'autres pays. Quels sont nos points forts en tant que démocratie? C'est l'esprit critique, c'est pas l'apprentissage pur et simple, parce qu'en plus l'apprentissage, on va de moins en moins être performant par rapport à cette encyclopédie. Ça n'a plus aucun intérêt. Et donc repenser entièrement. Je crois que c'est l'État de New York qui depuis un an, depuis OpenAI, a changé la manière dont les examens sont faits. C'est-à-dire aujourd'hui, les exposés faits à la maison, terminé. Puisque
ça me fait un peu penser anciennement au copier-coller, qui était la bête noire en fait des enseignants, et qui finalement, petit à petit, voilà, n'est pas rentré dans les mœurs, mais disons que ça a été fait de manière plus intelligente, et on a réussi à en fait s'accaparer cet outil de l'Internet. Ouais. C'est pareil sans doute avec l'IA générative. Je vous propose de marquer une petite pause, messieurs. Théo, André et Fred, on revient dans un instant. J'en perds la voix, 21h, dans une petite minute. Je vous propose de changer de sujet, de nous intéresser à TikTok. TikTok qui est, dont l'étau se resserre aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça commence à être impressionnant. Et il y a même des rumeurs de rachat de la filiale américaine de TikTok. Mmh. Je vous propose d'évoquer ce sujet dans un instant. Tech & Co, la quotidienne, le débrief revient juste après cette petite pause. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. On débriefe l'Acutech encore pendant un petit quart d'heure. Et puis, juste après, je recevrai le directeur général de Rakuten TV. Vous connaissez Rakuten, qui est un site de e-commerce. C'est aussi une chaîne de télé disponible sur les télés connectées un peu partout, sur tous les écrans. On s'intéressera à la stratégie donc de Rakuten TV dans quelques minutes. Mais pour l'heure, toujours pour débriefer l'actu, Frédéric Simotel, que vous connaissez, journaliste à BFM Business, André Losgu-Pietri du Jedi et Théo Leblanc, fraîchement arrivé dans le débrief de Tech & Co. Bienvenue encore une fois Théo, expert réseaux sociaux et IA, et du haut de ses 17 ans a une connaissance en fait de ces sujets tout à fait respectable ma foi. Hein, alors, on va arrêter l'IA, quoi qu'on va y rester quand même aussi, puisque TikTok c'est de l'IA, hein, les algorithmes de TikTok, le fait qu'on soit addictif à TikTok à partir du moment où on a commencé à scroller, bah, c'est de l'intelligence artificielle. Et on va en parler maintenant parce que TikTok pourrait être interdit aux États-Unis. Hier, une étape a en tout cas été franchie puisque la Chambre des représentants a adopté un projet de loi qui ordonne à Biden de céder le réseau social et de couper les ponts avec la Chine. C'est un vrai séisme. Le texte a été voté à une très large majorité, mais il doit encore passer par le Sénat. Sur ce point, au moins, républicains et démocrates sont d'accord. Mais est-ce qu'on a raison de s'inquiéter au sujet de TikTok? C'est l'angle qu'a choisi Anthony Morel. On écoute, c'était justement son petit point, son intervention ce matin dans Good Morning Business.
On va pas se mentir, hein, TikTok c'est un aspirateur à données, ça c'est très très clair. Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait se dire, c'est un nouvel épisode de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, tout ça c'est politique. En fait, on se rend compte que partout dans le monde, des mesures comme ça commencent à être prises. Ne serait-ce que dans les administrations, il y a beaucoup de pays qui ont interdit à leurs fonctionnaires, sur les smartphones distribués aux agents publics, d'installer TikTok. C'est le cas en France, c'est le cas en Belgique, c'est le cas au Royaume-Uni, en Australie, au Canada. Et puis il y a des pays, comme l'Inde par exemple, qui... j'allais dire élargissent cette interdiction à l'ensemble de la population. TikTok est complètement bloqué, c'est la voie que semblent prendre les États-Unis. Alors est-ce que c'est juste de la parano? Il faut se pencher du côté des experts en cybersécurité pour avoir des réponses, et là les réponses elles sont pas forcément très rassurantes. Dès 2020, on a deux chercheurs américains qui ont démontré que TikTok sur les iPhones avait accès au presse-papier de l'iPhone, c'est-à-dire que hors de l'application TikTok, tout ce que vous copiez dans le presse-papier
jaune là, où on écrit des choses,
exactement, où je sais pas, vous allez copier un mail, ça peut être un mot de passe aussi. Bah, tout ça, TikTok y a accès. Il y a un autre chercheur qui a montré que le navigateur intégré dans l'application TikTok permet à TikTok d'avoir accès en gros à tout ce qu'on tape. C'est-à-dire chaque frappe de clavier, à chaque fois que vous touchez le clavier, ça peut être analysé par l'entreprise. Ouais. Donc ça va quand même assez loin. Et il y en a un dernier qui a décortiqué l'application et qui explique que TikTok a accès à tout un tas de données sur nos smartphones. Et son conseil, c'est n'utilisez pas TikTok. C'est un service de récolte de données qui se présente comme un réseau social. Donc là, tout est dit, c'est assez clair. Alors après, la question, c'est est-ce que ces données que TikTok siphonne, est-ce qu'elles remontent vers Pékin? Et là, l'attitude de l'entreprise, elle est quand même assez ambivalente, même contradictoire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, quand le patron TikTok est auditionné par le Congrès, il dit non, jamais de la vie, j'ai jamais reçu de demande de Pékin en ce sens, et même si c'était le cas, je n'enverrais pas les données. Bon, sauf qu'en Europe, on sait très bien, et TikTok l'a admis, je les cite hein, d'ailleurs, que les données des utilisateurs européens peuvent être consultées selon les besoins du service par des employés en Chine, ce qui n'est pas forcément rassurant là non plus.
Voilà, après on va dire l'épisode Huawei qu'on a connu il y a quelques années, voilà, tout ce qui provient
et
de la Chine.
Et avant celui des voitures, parce que je pense qu'on va y arriver.
Oui, les voitures chinoises, bien évidemment, qui commencent d'ailleurs à être pointées du doigt aux États-Unis, hein, oui. Parce que évidemment, c'est des aspirateurs à données, comme le disait Anthony. Donc là, focus sur TikTok. Faut-il s'inquiéter de TikTok? Et c'est vrai que si tout ce que dit Anthony est quand même vrai, c'est effrayant, le fait que d'avoir le copier-coller de votre iPhone qui part directement sur les serveurs de TikTok. La question, André, et on va commencer par toi, est-ce que, on va dire, les États-Unis ont raison d'être aussi vindicatifs et aussi, on va dire, clivants concernant TikTok, le fait de le sortir, de l'éjecter, quoi?
Je crois qu'on voit avec ce qui se passe en Ukraine qu'on est complètement rentré dans la guerre cognitive. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une guerre d'information, de désinformation. Une plateforme, alors au-delà de la fonction copier-coller qui est effectivement effrayante, le fait qu'on a en permanence ce que vous aimez, ce que vous aimez pas en fonction de types de vidéos très très différentes, donne extrêmement rapidement un profil psychologique assez puissant. Et donc, en fait, on vous connaît parfois mieux que vous-même. Un peu comme quand on va dans un site de e-commerce qui vous propose des choses auxquelles, finalement, intuitivement, vous pensiez, mais vous n'aviez pas exprimé ce besoin. Donc, je pense que ce n'est pas du tout insensé de se dire qu'une plateforme dont on ne maîtrise pas vraiment les propriétaires où va l'information, et encore moins si l'information va dans un régime autoritaire. Donc, je pense que c'est une... Et deuxième chose, François, tu introduisais le sujet en parlant de dépendance. On est quand même sur des drogues, et je pense que ça peut sembler très conservateur de dire ça comme ça. Je pense que les démocraties n'ayant pas complètement mis à jour leur logiciel, on est encore sur des élections, les gens... Je veux dire, les millénials forment plus que 50% de leur opinion politique sur les réseaux sociaux. Donc ça a une influence considérable, donc je pense que oui. Par contre, je ne pense pas que ça va arriver, parce que, un, Biden, sa réélection dépend aujourd'hui de la Gen Z, qui est sur TikTok, et je pense que notre Premier ministre, à nous aussi... D'ailleurs, c'est quand même assez marrant, nous, on est sur le point d'interdire Shane... Hein, parce que notre première des priorités, c'est l'environnement, donc le fast fashion va passer à la trappe. Très bien. Mm-hmm. Les Américains, eux, s'intéressent plus à la guerre cognitive et à la désinformation. Je pense que les deux sont importants.
Théo, juste une petite question personnelle. Est-ce que tu es un utilisateur de TikTok?
Absolument pas. J'ai toujours refusé d'installer l'application et j'ai un dégoût profond pour ce format de vidéo court. Parce que justement, sur ce côté-là, très addictif, très divertissant, et dans sa forme telle qu'elle est. Où, en 60 secondes, on ne peut pas retenir quelque chose, on ne peut pas vraiment apprendre une information qui sera utile derrière.
Donc, mais moi, j'imagine que tu as des potes.
Ma sœur, simplement.
Ta sœur est sur TikTok. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu la vois scroller pendant des heures, non mais est-ce que tu arrives à la sensibiliser, parce que c'est ce que disait parce que ça va être le plus dur maintenant, comment expliquer aux gens que depuis 2-3 ans vous utilisez un réseau social qui est abrutissant, qui vous hypnose et qui
c'est très pavlovien,
est contre-productif,
tac on clique, on a le morceau de sucre, enfin pour ceux qui se rappellent de l'expérience de Pavlov, c'est ça, hein.
C'est ça. Ouais, Théo.
Mais par contre voilà, il y a deux points déjà là-dessus. Oui, malheureusement je ne suis pas un professionnel dans la gestion des addictions des drogues, et donc je ne suis pas forcément les bons termes, parce que oui c'est une drogue. Et c'est la même chose que par exemple quand on a un proche de sa famille qui tombe dans la cocaïne, qui tombe dans ce genre de choses, c'est exactement les mêmes effets sur le cerveau, faut pas le sous-estimer. Mais donc malheureusement oui,
je pense qu'on peut quand même se sevrer plus facilement de TikTok que de la cocaïne, hein. Je pense.
Sur les effets sur le cerveau cognitif en termes d'addiction, pas tant. Enfin, c'est le même type d'effet en tout cas. Donc c'est pas forcément exactement aux mêmes échelles. Je maîtrise pas assez exactement au niveau des neurones les quantités, mais c'est exactement les mêmes effets en tout cas en termes d'addiction. Donc là-dessus, c'est ça qui est dangereux. C'est ça le gros problème. C'est pour ça que on n'est pas capable de s'en passer. C'est lié à plusieurs mécanismes, les récompenses variables, le fait de justement que l'algorithme connaisse parfaitement qui on est, mais pas que. Et le deuxième point, c'est aussi qu'il y a quand même. Alors ça, c'est le problème, mais il y a un côté très hypocrite quand même sur ces lois, voilà, sur ces choses-là. C'est que on s'emploie sur TikTok. On met ça en avant quand ça parle de TikTok. On en a quand même très rarement parlé, on en a parlé, mais très rarement par rapport à Facebook, par rapport à YouTube, par rapport à Instagram. On l'oublie quand même, les vidéos sur TikTok et Instagram, c'est exactement les mêmes. J'ai beaucoup d'amis créateurs de contenu, ils publient exactement les mêmes vidéos en même temps sur Instagram et TikTok. Ça ne change pas, le contenu est le même.
Et Instagram et Facebook est aussi aspirateur de données.
Exactement.
Que TikTok.
On parle de TikTok.
Non, là, le sujet, c'est que c'est les données partent potentiellement en Chine.
Mais nous, Européens, André, le fait que les données partent aux États-Unis, est-ce que c'est une bonne chose?
Mais d'ailleurs, justement, le sujet là-dessus, c'est ça.
On est complètement.
C'est le papier d'Anthony, c'était ça. Hein, c'était plus sur le...
Alors, Anthony dit, parce que j'en ai parlé avec lui ce matin, certains experts disent que TikTok, c'est beaucoup... Il y a beaucoup plus de données qui remontent en TikTok que le fait, par exemple, Meta, ce soit Instagram, Facebook ou même WhatsApp.
Bah, j'ai le contre-exemple. Est-ce que vous vous rappelez de Threads, la copie de Twitter qui a été faite par Meta? Pourquoi est-ce qu'elle a été bannie en Europe pendant assez longtemps? C'est parce qu'elle prenait littéralement quasiment toutes les données disponibles sur téléphone, y compris les données de santé, y compris les données de géolocalisation en permanence. Ouais. En termes d'aspirateur à données, Meta est quand même pas mal.
Oui,
pas l'oublier.
Et parce que c'est leur business, rappelons-le. Hein.
Bien sûr.
Parce que c'est en vous ciblant qu'ils arrivent à vous trouver de la publicité qui va matcher. Mais est-ce que tu pourrais comprendre que TikTok pourrait être banni, en fait? Aujourd'hui, est-ce que tu représentes les jeunes aujourd'hui de 17-18 ans. Est-ce que on pourra enlever cette application sans que ce soit un tollé général, une révolution?
Je pense que oui, que simplement les usages se détourneraient ailleurs. Pourquoi pas YouTube Shorts, pourquoi pas Instagram, parce que c'est les mêmes contenus. L'habitude changerait juste de support. Après, voilà, faut le rappeler, ce serait plus une décision purement géopolitique et pas tant au niveau des données. Si c'était vraiment au niveau des données, dans ce cas-là, on ferait un peu comme la Chine, on mettrait un temps d'écran sur les réseaux sociaux, on contrôlerait beaucoup plus les algorithmes et le fonctionnement là-dessus de tous les réseaux, et pas uniquement de TikTok.
Non,
oui, c'est possible, mais vraiment de la pure géopolitique.
La crainte, et on va voir comment ça va réagir en Chine, c'est, Anthony disait, il y a ce côté guerre commerciale Chine-États-Unis, c'est que si on revient aux États-Unis et si TikTok doit être banni, racheté, etc.
Ouais. Les conséquences.
Les conséquences en Chine vont être assez lourdes.
Commerciales. Hein,
parce que, c'est ça. Quelqu'un comme Apple qui vise tout son marché.
Je pense
là-bas,
que Tim Cook doit commencer un peu à frissonner.
Je pense que là, les Chinois, ils vont pas se poser de questions. Ils disent, bon, ok, vous arrêtez ça, on arrête Apple tout de suite, et puis on va voir. Avec Apple qui vise une forte croissance toujours en Chine.
Ouais, ça me fait penser à la taxe européenne des GAFA que notre gouvernement mettait en avant, et les États-Unis ont dit ok, bon, on va taxer le vin maintenant, vous allez voir.
Il va y avoir ça. Et finalement, cette taxe a disparu. Ensuite, quand tu connais la mentalité chinoise, ils te disent attendez, nous, tout est clair. Enfin, voilà les infos qui remontent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le sait. Ouais. Tout est clair. Hein, tout est mis noir sur blanc.
Est-ce qu'il y a d'intérêt?
Si vous voulez pas nous utiliser. Enfin, si vous voulez pas que les données rentrent, vous nous utilisez pas. Enfin, nous, on réagit. Et les Chinois, j'avais discuté avec eux au Mobile World Congress, il y a des gens de China Telecom qui me disaient, nous, on préfère travailler en Europe, parce qu'au moins en Europe, le cadre est clair. Alors, on s'y conforme, on s'y conforme pas. Voilà, au moins, il y a un cadre, il y a des règles. Il dit, aux États-Unis, le problème, c'est que les règles, elles changent selon le président, elles changent selon les États, parce que ça aussi, on en parle, mais est-ce qu'il n'y a pas des États qui vont dire, si, moi, je garde le TikTok, hein. Donc là aussi, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais moi, ma première crainte, alors je suis d'accord avec toi, chez nous on s'occupe de Shein, et puis au lieu de s'occuper, enfin voilà, ça c'est un autre débat, mais la première chose, c'est la réaction des Chinois,
parce que effectivement il existe TikTok en Chine. Mais c'est pas du tout la même chose.
Non, c'est
ça s'appelle Douyin. Évidemment,
c'est éducatif.
C'est éducatif, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même contenu. Les algorithmes ne sont sans doute pas les mêmes. Enfin, il y a plein de vérifications, etc., etc. Et on voit que le même outil, finalement, utilisé par deux, on va dire, deux civilisations différentes, change complètement de
profil. Oui, mais il y a aussi, il y a véritablement une volonté du côté du gouvernement chinois de ne pas laisser des outils, d'abord, qui ont une grande liberté, tous ces espaces de liberté sont maintenant de plus en plus bannis. Et deuxième chose, l'aspect, je pense, addictif de tous les réseaux sociaux a été, pour le coup, clairement perçu, mais pas forcément pour des raisons de valeurs humanistes comme on pourrait les avoir ici, c'est juste aussi que c'était une menace pour la prééminence du parti. Je rappelle quand même que le Premier ministre en Chine a disparu. Alors, il n'a pas disparu. Là, il vient d'avoir un congrès en Chine. Il était tradition que le Premier ministre s'exprime. Ça, il ne s'exprime plus. Donc, on a une personne.
Oui. Et ça arrive de temps en temps, des personnalités comme ça qui sont...
C'est sûr. Non, c'est pour ça que je le précise.
Jack Ma, ouais.
Mais peut-être quand même un peu...
Il y en a eu d'autres, hein, aussi. Ouais. Une sportive aussi, je crois.
Le patron de Fosun aussi. Oui, une tennisman. Le patron de Fosun aussi, qui était le patron quand même du Club Med, au passage.
Donc, la prochaine étape, c'est est-ce que TikTok sera vendu, en tout cas racheté par...
On évalue, tu m'as dit l'évaluation, c'est combien?
Visiblement, ça coûterait plus de 100 milliards, hein, TikTok. C'est beaucoup d'argent, en tout cas, rien que la filiale américaine. Mais on en reparlera la semaine prochaine, car l'heure tourne. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Théo.
Avec plaisir, merci pour l'invitation.
Théo Leblanc, donc, qu'on peut retrouver sur LinkedIn, sur un peu partout aussi. Tu es sur LinkedIn, c'est sur où?
Une newsletter, du coup, qui s'appelle...
La newsletter.
IA émergé.
Voilà.
Je suis sur le profil LinkedIn.
Théo Leblanc, donc. André, évidemment. Merci d'être là.
Merci François, et le bonjour à tous les membres de la commission IA.
André Losgul-Pietri, donc du Jedi. Et merci à Fred Simotel.
Oui, et puis on parlera justement de ingénierie sociale dans Tech & Co Business ce week-end, parce qu'on a la société qui s'appelle Another Way. Ouais. Et là où on parlait de ce que connaissent les réseaux sociaux sur nous, eux travaillent là-dessus. Il paraît que c'est assez impressionnant quand ils font une enquête toute bête, hein, sur nous.
Et ce sera ce week-end sur BFM Business.